Nous avons terminé avec la décision de Ruth et maintenant ça nous amène dans le deuxième chapitre dans le livre de Ruth et nous allons d'abord lire ce deuxième chapitre, Ruth 2 à partir du verset 1er. Et Naomi avait un ami de son mari, homme puissant et riche de la famille d'Elimelec et son nom était Boaz. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Je te prie, j'irai au champ, et je glanerai parmi les épis à la suite de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui dit, « Va, ma fille. » Et elle s'en alla et entra et glana dans un champ après les moissonneurs, et il se rencontra fortuitement que c'était la portion du champ de Boaz qui était de la famille d'Elimelec. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, « L'Éternel soit avec vous. » Et ils lui dirent, « L'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à ses serviteurs, à son serviteur qui était établi sur les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Et le serviteur qui était établi sur les moissonneurs répondit et dit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi des champs de Moab. » Et elle nous a dit, « Permettez que je glane et que je ramasse entre les gerbes après les moissonneurs. » Et elle est venue et est demeurée depuis le matin jusqu'à cette heure et qu'elle a été assise dans la maison et peu de choses. Et Boaz dit à Ruth, « Tu entends, n'est-ce pas ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ et ne t'en va pas non plus d'ici, mais tiens-toi ici auprès de mes jeunes filles. » Et les yeux sur le champ qu'on moissonne, et va après elle. N'ai-je pas commandé aux jeunes hommes de ne pas te toucher? Et si tu as soif, tu iras au vase et tu boiras de ce qu'on puise les jeunes hommes. Et elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu me reconnaisses? Et je suis une étrangère. Et Boaz répondit et lui dit, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari m'a été rapporté, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu connaissais pas auparavant. Que l'Éternel récompense ton œuvre et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Et elle dit, « Mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas comme une de tes servantes. » Et au temps du repas, Boaz lui dit, « Approche-toi ici et mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Et elle s'assit à côté des moissonneurs et lui tendit du grain rôti, et elle mangea et fut rassasiée et en laissa de reste. Et elle se leva pour glaner, et Boaz commanda à ses jeunes hommes, disant, « Qu'elle glane même entre les gerbes, et ne lui en faites pas de reproche, et vous tirerez aussi pour elle quelques épis des poignées, et vous les laisserez, et elle les glanera, et vous ne l'en reprendrez pas. » Et elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané, et il eut environ un épha d'orge. Et elle le chargea sur elle, et vint à la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Et elle sortit de ce qu'elle avait laissé de reste après avoir été rassasiée, et le lui donna. Et sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui ? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. » Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et dit le nom de l'homme chez qui j'ai travaillé. Aujourd'hui est Boaz. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous nous avons occupé un tout petit peu avec cette histoire et nous avons vu qu'en fait, les Moabites, ils n'avaient aucun droit d'entrer dans la congrégation de l'Éternel, ils n'avaient aucun droit pour entrer dans le peuple de Dieu. Mais Ruth a quand même pris cette décision malgré qu'elle n'avait aucun droit. Et nous voyons, nous avons vu cette foi qu'elle avait, cette relation envers Dieu. Et nous pouvons dire dans cette première décision qu'elle a prise, nous pouvons voir la conversion, c'est la décision initiale, capitale. Mais après, nous avons aussi vu les applications que nous avons faites aussi pour nous les croyants qui suivent le Seigneur Jésus. Avant maintenant d'entrer dans le deuxième chapitre, j'aimerais encore peut-être expliquer pourquoi Boaz a finalement marié Ruth, malgré qu'il n'avait pas le droit, selon Deutéronome 23, le verset 3, nous l'avons vu, parce que les Moabites n'avaient pas le droit d'entrer dans la congrégation. Pourquoi alors il a marié? Parce qu'il y avait encore une autre loi. Et peut-être nous allons lire Deutéronome 25. Deutéronome 25, à partir du verset 5, « Quand les frères habiteront ensemble et que l'un d'entre eux mourra, et qu'il n'aura pas de fils, la femme du mort n'ira pas s'allier dehors à un homme étranger, son levir viendra vers elle et la prendra pour femme et s'acquittera envers elle de son devoir de lévier. » Alors ici nous avons la loi du lévirat, c'est-à-dire, comme nous avons lu, si une femme était mariée avec un homme et le mari est mort, alors le frère du mari a dû prendre la femme pour avoir des enfants, et aussi c'était en relation avec le pays de Canaan, donc avec l'héritage concernant ce pays. Alors ça, c'était une autre loi. C'est pour ça que Boaz était, si on peut dire ainsi, un peu coincé entre deux lois. C'est clair, Boaz n'était pas le frère de Maclon, mais il était quand même de la famille d'Élimélec, et il y avait encore un de la famille qui était plus proche. Mais malgré tout, il était entre ces deux lois, la loi du Deutéronome 23, qu'il n'avait pas le droit de marier une Moabite, mais de l'autre côté, la loi du Lévirat. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand loi est contre loi? Qu'est-ce qui est l'issue? C'est la grâce. C'est la grâce. Et ça, c'est pour ça que ce livre est tellement beau pour nous. Il y avait loi contre loi, mais Boaz, il prend cette grâce qui est là et il la marie quand même. Et de l'autre côté, nous avons vu, du côté de Ruth, il fallait de la foi pour approprier cette grâce, pour en profiter de cette grâce. Et ça, c'est la même chose pour nous. Et maintenant, quand nous arrivons à ce deuxième chapitre, nous voyons justement ce point. D'un côté, nous verrons la grâce de Boaz envers Ruth, mais de l'autre côté, nous voyons la foi de Ruth qui se pose sur la loi, sur les promesses de Dieu. Et nous verrons quatre différentes relations dans ce chapitre 2, et nous verrons ces relations sont en fait spécialement pour Ruth, afin qu'elle ait une bénédiction maximum pour elle-même. Nous verrons cela. Et j'aimerais bien appliquer ce chapitre au rassemblement. Nous pouvons aussi l'appliquer sûrement sur notre vie pratique, personnelle, mais j'aimerais le faire en appliquant sur le rassemblement. Et nous verrons, dans le rassemblement, le Seigneur Jésus, il aimerait nous bénir par sa parole. Il aimerait que nous profitions un maximum, que nous soyons édifiés. Et ces quatre relations qui sont là sont en fait pour que nous puissions croître dans la connaissance de la personne du Seigneur Jésus. Dans les trois premiers versets, nous avons, on peut dire, une introduction où nous voyons différentes personnes, et après, à partir du verset 4, nous avons justement ces personnes, ces différentes personnes qui ont entre eux une relation. Nous verrons cela. Alors d'abord, au verset premier, il nous est parlé de Boaz. Il nous est parlé de Boaz en premier, malgré qu'il entre en scène seulement à partir du verset 4. Qu'est-ce que ça signifie? Boaz est une image du Seigneur Jésus, nous l'avons vu. Et ça, c'est la personne la plus importante. Il vient toujours au début, en premier. Et il nous est parlé de lui, premièrement, que c'est un ami de son mari et à la fin de la famille d'Élimélec. Alors, il est proche parent avec la famille d'Élimélec. Comment le Seigneur Jésus est proche parent de nous? Le Seigneur Jésus est Dieu, mais il est devenu homme. Et 1 Timothée 2 nous explique que le Seigneur Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il est Dieu et en même temps il est homme. Mais le Seigneur Jésus, comme homme, est retourné après sa résurrection. Il est rentré, il est allé au ciel. Et maintenant, il est au ciel aussi comme homme. Il restera homme éternellement. Et ainsi, parce qu'il est resté homme, il est maintenant... Il n'a pas honte de nous appeler frères. Nous sommes alors proches parents avec lui. Nous ne l'appelons pas frère, bien sûr que non. Il est notre Seigneur. Mais lui, il n'a pas honte de nous appeler frères parce que nous avons la même vie, nous appartenons à la même famille. Le Seigneur Jésus lui-même, il est notre vie. Alors, ça c'est ce côté-là. Et l'autre côté, le côté collectif, le Seigneur Jésus est le Seigneur, le chef, la tête de son corps, de son assemblée. Et nous sommes liés si proches avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose qui nous est présentée ici. Deuxième point, il est puissant. Il est puissant, il a toutes les possibilités, toutes les capacités pour nous aider. Et dans le rassemblement, il est très important de savoir que le Seigneur Jésus, il est puissant. Pour mettre en pratique les vérités du rassemblement, les fondements du rassemblement, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, par notre propre force. Non, nous avons besoin de la puissance de notre Seigneur Jésus. Troisième point, il est riche. Il est riche. Et le Seigneur Jésus, quand nous lisons Éphésiens 3, il nous est parlé des richesses insondables du Christ. Nous pouvons nous occuper avec le Seigneur Jésus et nous arrivons jamais à la fin parce que le Seigneur Jésus est tellement riche. Nous pouvons chaque dimanche nous occuper avec le Seigneur Jésus et nous arrivons jamais à la fin parce qu'en lui, nous trouvons des richesses inépuisables, insondables. Le Seigneur Jésus est tellement riche. Comme ça, Boaz, il nous est présenté une image du Seigneur Jésus, alors glorifié dans le ciel, qui est en relation avec son assemblée. Puis, nous avons au verset 2, Ruth. Ruth, la Moabite. Et cette Ruth, elle prend une initiative. Elle a le désir de glaner parce qu'elle voulait avoir de la nourriture. Et ça, c'est quelque chose qui est très normal. Pour un qui a la nouvelle vie, il a aussi envie de lire la parole de Dieu. C'est tout à fait normal. 1 Pierre 2 nous parle d'un jeune enfant, un nouveau-né, qui désire ardemment du lait. Et nous voulons tous nous poser la question, est-ce que j'ai vraiment le désir de me nourrir de la parole de Dieu? Je ne veux pas dire que ce n'est pas un combat de se lever le matin, tôt le matin, pour lire la parole de Dieu. C'est aussi un combat. Le lit est chaud, et nous sommes faibles, nous sommes fatigués. Mais est-ce que nous avons le désir de nous nourrir de la parole de Dieu? Si nous avons la nouvelle vie, nous avons ce désir. Peut-être il y a des choses entre nous, peut-être, entre nous et le Seigneur, qui nous empêchent de lire la parole de Dieu. Mais ici, nous avons une Ruth, une qui est une jeune convertie, qui a le désir de glaner. Mais nous trouvons encore un deuxième aspect chez Ruth, au verset 2. Elle voulait pas seulement glaner, mais elle voulait aussi trouver une personne. Elle dit, parmi les épées, à la suite de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Alors elle voulait aussi rencontrer une personne. Et si nous appliquons cela maintenant au rassemblement, nous allons à la réunion d'édification surtout pour écouter la parole de Dieu. Ça, c'est l'essentiel. Mais peut-être nous avons aussi ce désir de rencontrer une personne, la personne du Seigneur Jésus. Parce que nous n'allons pas à la réunion pour écouter un frère, nous allons à la rencontre du Seigneur Jésus pour avoir de la communion avec lui. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, le Seigneur Jésus nous parle. Et ainsi fonctionne la communion. Nous venons alors dans la présence du Seigneur Jésus pour écouter sa parole, mais aussi pour rencontrer le Seigneur Jésus. Elle prend cette initiative, mais elle partage son désir avec sa belle-mère. Et sa belle-mère, elle dit, « Va, ma fille. » Au verset 3, nous avons encore un autre groupe de personnages, c'est les moissonneurs, parce qu'elle glanait après les moissonneurs. Et les moissonneurs nous parlent des frères qui s'expriment à la réunion, qui prêchent la parole de Dieu. Nous verrons cela. Et c'est important qu'elle ne va pas devant les moissonneurs, qu'elle va derrière les moissonneurs. C'est logique. Dans la pratique, les moissonneurs, ils ont fauché l'orge, ils ont formé des gerbes, et ainsi, elle pouvait glaner derrière les moissonneurs. C'est logique, elle ne va pas glaner devant. Mais cela nous montre que le Seigneur Jésus a donné des dons à l'Assemblée qui ont le don d'expliquer la parole de Dieu et aussi d'appliquer la parole de Dieu afin que nous ayons de la nourriture. Et parfois, si nous allons dans un rassemblement local, nous connaissons les frères, bien sûr, et nous connaissons aussi les fautes des frères. Et parfois, nous sommes peut-être à la réunion, nous écoutons, et puis après nous disons, ouais, mais ce qu'il vient de dire, j'accepte pas parce qu'il ne fait pas mieux, ou bien j'ai peut-être un problème avec un frère. Il faut bien apprendre que c'est le chemin que Dieu a désiré, a choisi, que le Seigneur a choisi pour que nous puissions croître dans la connaissance de la personne du Seigneur Jésus et aussi pour mieux comprendre la parole de Dieu. Parfois, j'ai déjà entendu des croyants qui disent « Moi, je n'ai pas besoin des frères qui m'expliquent la parole. Moi, je lis simplement la parole de Dieu, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de lire des écrits, je n'ai pas besoin des frères. » C'est clair, nous avons reçu tous le Saint-Esprit qui nous introduit dans la vérité, ça c'est vrai. Mais si nous méprisons les frères, les dons que le Seigneur nous a donnés, nous méprisons aussi le Seigneur, le donateur de ces dons. Alors, encore une fois, c'est le chemin que Dieu a choisi afin que nous puissions croître. Puis, à la fin du verset 3, nous lisons qu'elle rencontra fortuitement le champ de Boaz. Fortuitement, c'est toujours en vue des hommes. Concernant Dieu, c'est jamais fortuitement, jamais. Dieu a toujours un plan, mais du côté de Ruth, c'était fortuitement. Alors le champ de Boaz, nous verrons encore plus tard, mais ce champ nous parle justement des vérités concernant le rassemblement. C'est là le lieu où le Seigneur Jésus a promis sa présence. C'est là où nous sommes assemblés en son nom. C'est là, cela nous parle justement ce chant. Maintenant, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, nous avons la première relation. Et ça, c'est la relation entre Boaz et ses moissonneurs. Et c'est très touchant de voir comment ils parlent ensemble. C'est vraiment une relation de cœur qu'ils ont tous ensemble. Et alors, nous voulons maintenant apprendre quelque chose pour notre situation, pour le rassemblement. Le Seigneur Jésus donne alors les serviteurs. Il donne les dons. Et le Seigneur Jésus donne selon sa souveraineté. Ça, c'est important. Nous lisons ça, par exemple, aussi dans la parabole en Matthieu 25, la parabole avec les talents. À un, il donne 5, à l'autre 2, et à un autre 1. Et il donne après les capacités naturelles. Alors, le Seigneur Jésus, il te donne exactement, il te donne un don exactement à ce qui correspond à tes capacités. Parfois, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être nous sommes des fois jaloux sur les dons d'un frère ou d'une sœur. Mais la jalousie, ça vient toujours de la vieille nature. C'est toujours mauvais, il faut toujours juger ça. Mais nous comprenons peut-être, nous pensons à celui-là, il a un grand don pour expliquer la parole. Peut-être nous sommes jaloux. Mais on n'a pas besoin d'être jaloux. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus t'a donné exactement le don qui correspond à tes capacités naturelles. Il t'a donné exactement ce que tu peux aussi pratiquer. Le Seigneur Jésus donne toujours un don et une tâche que nous pourrons pratiquer. Et la deuxième chose que nous apprenons ici, il y avait encore un serviteur, un jeune homme, qui était au-dessus des moissonneurs. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui est au-dessus des frères dans le rassemblement? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce jeune homme est ce serviteur, il est un singulier. Ce serviteur, alors, est une figure du Saint-Esprit qui dirige tout dans le rassemblement. Alors, les moissonneurs, ils travaillent pour Boaz, mais ils font leur travail sous la direction de ce serviteur. Et ça, c'est la même chose aujourd'hui. Le Seigneur Jésus donne les dons, nous avons vu. Et si nous lisons Matthieu 25, c'est très intéressant. Après avoir donné les dons, les talents, il part dans un autre pays. Mais il ne donne pas une ordonnance, un commandement qu'ils doivent utiliser leurs dons, leurs talents. Il dit rien. Alors on peut dire, le fait que nous avons reçu un don, c'est en même temps le fait que nous devons pratiquer ce don. Mais si nous savons peut-être le don que nous avons reçu, nous ne commençons pas à pratiquer directement. Non, nous pratiquons ce don sous la direction du Saint-Esprit. Et nous savons tous qui essayons à exprimer quelque chose dans le rassemblement, combien c'est difficile d'être toujours sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que la chair est toujours présente, elle est toujours là. Nous ne la pondons pas au corridor, dehors. Elle vient aussi avec nous. Et je pense souvent, nous aimerions nous conduire par le Saint-Esprit, mais peut-être c'est aussi un petit peu mélangé avec la chair. Ça peut arriver. Mais si nous avons vraiment à cœur de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, il nous viendra en aide pour pratiquer cela. Encore un dernier point, les moissonneurs sont toujours moins mentionnés en pluriel. Et nous voyons que le Seigneur, il aimerait de la diversité dans le rassemblement. Je ne parle pas des tout petits rassemblements où il y a peut-être seulement 2-3 frères, mais nous voyons ça ici, mais aussi dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 14, que Dieu ne veut pas un seul prédicateur qui fait tout. Non, il veut utiliser 2 ou 3 prophètes, il veut que chaque frère se laisse conduire par le Saint-Esprit et qui prononce, qui s'exprime selon ses dons. À partir du verset 8, nous avons la deuxième relation, c'est la relation entre Boaz et Ruth. Peut-être nous ne pouvons pas encore parler d'une relation, mais c'est la première rencontre qui finit dans le mariage, dans le chapitre 4. Et cette rencontre est vraiment remarquable. Dans les versets 8 et 9, Boaz parle à Ruth. Et nous nous souvenons, c'est la première rencontre. C'est la première rencontre. Et il commence comment ? Il commence, « Tu entends, n'est-ce pas ma fille ? Ne va pas glaner dans un autre champ. » Pourquoi il commence comme ça ? Il aurait pu dire, ouais, « j'ai entendu que tu es une femme vertueuse, que tu n'es pas paresseuse, et puis tu travailles, etc. » Non, il commence avec le champ. Pourquoi ? Pourquoi il commence avec le champ ? Parce que le champ est important pour Boaz. Ce chant est mentionné 7 fois dans ce chapitre, 7 fois. Et 7, c'est le chiffre de la perfection. Et ce chant est toujours mentionné en singulier. Je ne sais pas combien de chants avait Boaz, mais il était riche, nous avons lu. Et je ne peux pas m'imaginer qu'il avait un seul chant. Il avait certainement plusieurs chants. Mais il est toujours parlé d'un seul chant, 7 fois. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut nous dire qu'il y a un endroit, c'est un endroit principal où le Seigneur Jésus a promis sa présence. C'est là où nous sommes assemblés en son nom. Et ce lieu est tellement important pour le Seigneur Jésus qu'il en parle en premier à Ruth. Et il nous parle aussi en premier cet après-midi. Est-ce que nous avons à cœur de nous rassembler vraiment en son nom, sans mélange des idées des hommes, mais vraiment basé sur la parole de Dieu? Et ça, c'est important, que nous avons aussi à cœur d'avoir ce point de vue, cette vue comme le Seigneur Jésus. Parce que si nous lisons aussi dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à partir du Deutéronome 12 jusqu'à la fin du livre, 21 fois sur le lieu où il voulait habiter, 21 fois. Et ce lieu était à Jérusalem. Il y avait un seul lieu, un seul endroit où on pouvait adorer, où on pouvait apporter les holocaustes, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas un lieu géographique, mais c'est un lieu principal. C'est là où le Seigneur Jésus a promis sa présence. Alors, encore une fois, pourquoi il commence par ce chant ? Pourquoi ce chant est si important ? Parce que c'est le chant de Boaz. C'est là où le Seigneur Jésus a promis sa présence. Et vous savez, le nombre des croyants à un endroit n'est pas important. Le nombre des dons qu'il y a, je veux dire, s'il y a des frères qui savent énormément bien expliquer, cela n'est pas important. Important, c'est si le Seigneur Jésus est présent. Et c'est ça qui compte à la fin, si nous sommes assemblés vraiment à son nom. Nous n'avons pas le temps maintenant de nous occuper avec ces fondements que nous trouvons dans le Nouveau Testament, mais il vaut la peine vraiment de nous occuper avec ces vérités afin que nous avons une conviction que le rassemblement selon la parole de Dieu, et puis que ce n'est pas mélangé avec les pensées humaines. La deuxième chose qu'il dit, il dit 2 fois « ne va pas » et 2 fois il dit « va ». Alors la deuxième fois qu'il dit « ne va pas » au verset 8, « ne va pas non plus d'ici, mais tiens-toi ici auprès de mes jeunes filles. » Alors il dit « ne va pas ailleurs, dans un autre champ, mais ne va pas, éloigne-toi non plus de mes jeunes filles. » Alors ça c'est de nouveau l'aspect que nous allons le chemin avec nos frères et sœurs. Ça, c'est important. Nous avons déjà vu ça dans le premier chapitre, que nous avons de l'amour pour les frères et sœurs. Et je sais, ce n'est pas toujours facile, parce qu'on se connaît, donc on connaît les faiblesses, on connaît les problèmes, et des fois, c'est plus simple de s'éviter. Peut-être nous avons été blessés par un frère, par une sœur. Après, nous disons à celui-là, je ne dis plus bonjour. Je fais un demi-tour autour, je l'évite. Mais ça, ce n'est pas bien. Il faut se tenir vers les frères et sœurs. Après, il dit au verset 9, et les yeux sur le champ qu'on moissonne et va après elle. Ici, c'est en fait un peu le même aspect qu'elle doit suivre les jeunes filles, mais j'aimerais mettre l'accent sur le champ qu'on moissonne. Alors, elle va derrière les moissonneurs et elle a les yeux sur le champ. Nous avons vu le champ, le rassemblement, mais aussi à la réunion, nous ne voulons pas fixer les yeux sur les frères qui prêchent. Non, nous voulons fixer les yeux sur le champ et la nourriture qui nous est présentée. Je pense maintenant à 1 Thessaloniciens 2. Ou peut-être que je dois lire, j'arrive pas à citer en français, 1 Timothée 2. Au verset 13, Paul, il dit aux Thessaloniciens, « Et c'est pourquoi aussi nous nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que ayez reçu de nous la parole de la prédication qui est de Dieu. Vous avez accepté non la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu. » Alors, ils ont écouté Paul, mais ils ont pris la parole pas de Paul, pas des hommes, mais de Dieu. Et ça, c'est important. Si un frère expose la parole, nous ne devons pas voir le frère, non, nous voulons voir que derrière, c'est le message de Dieu. Et après, il dit encore à la fin du verset 9, « Et si tu as soif, tu iras au vase et tu boiras de ce qui puise des jeunes hommes. » Ici, nous avons alors de l'eau. Et c'est logique, quand on glane toute la journée sous le soleil, en Israël, on a soif. Et cette eau est déjà là. Cette eau était puisée par les jeunes hommes. Et nous savons que l'eau nous présente aussi la parole de Dieu. Mais comme d'un côté comme rafraîchissement, mais de l'autre côté comme purification. Et ce qui est important ici, elle a glané. Elle a glané de l'orge, et l'orge est aussi la nourriture. Nous parlons aussi de la parole comme nourriture pour nous. Mais l'orge, elle devait glaner, elle devait la battre, après il fallait faire de la farine, etc. Alors, c'est beaucoup d'énergie pour avoir de la nourriture. Et il y a des portions dans la parole de Dieu où il faut mettre de l'énergie pour comprendre quelque chose. Mais de l'autre côté, il y a aussi des versets dans la parole de Dieu qui sont tellement simples que nous puissions comprendre. Ne crains pas, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui rafraîchit notre cœur. Et ça, c'est... Des fois, il y a aussi un verset ou un passage qui nous est présenté qui est simplement pour notre rafraîchissement, qui n'est pas difficile à comprendre et qui est déjà prêt, qu'elle pouvait seulement prendre de ses vases. Alors, Boas, il donne ici 4 exhortations, on peut dire, 4 conseils pour le bien de Ruth, qu'elle devait rester sur le champ, etc. Nous avons considéré cela. Au verset 10, nous avons une réaction de Ruth. Elle se prosterne devant lui, et elle parle de la grâce Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux ? Elle est tellement reconnaissante pour cette grâce qu'elle a reçue de Boaz. Elle n'a pas du tout mérité. Ça, c'est de la grâce. Grâce, c'est non mérité. Et elle se rend compte, c'est seulement de la grâce qu'elle a reçue toute cette ces choses que Boaz veut lui donner. Et si nous sommes assemblés, et nous écoutons la parole de Dieu, est-ce que nous sommes vraiment reconnaissants? Est-ce que nous sommes conscients que c'est seulement de la grâce du Seigneur qui veut nous bénir dans chaque réunion où nous pouvons écouter la parole de Dieu? Puis dans les versets 11 et 12, Boaz parle de la foi de Ruth, de ce qu'elle a quitté, son pays, sa mère, père, etc. Et au verset 13, Ruth parle de nouveau de la grâce. De la grâce, pas de ce qu'elle a reçu, mais la grâce concernant l'avenir. Elle dit au verset 13, « Mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. » Alors, au début, dans l'introduction, nous avons parlé justement de cette grâce et de cette foi. Et ici, nous avons de nouveau cette grâce de Boaz et la foi de Ruth. Et j'aimerais encore appliquer cela. Je ne sais pas combien d'entre vous sont nés ou grandis dans le rassemblement. Nous connaissons peut-être cela, ce rassemblement, depuis notre enfance. Nous allons par habitude chaque dimanche à la réunion et ça tourne, et puis ça, c'est toujours la même chose. Les frères s'expriment, nous allons rentrer à la maison et peut-être pour nous, ce n'est pas une chose que nous suivons par la foi. Peut-être pour nous, c'est simplement une habitude. Mais, chers frères et sœurs, je suis persuadé que la bénédiction que nous recevons à la réunion et que la présence du Seigneur que nous pouvons vraiment sentir a beaucoup à faire avec notre foi. Parce que nous avons besoin de la foi concernant le rassemblement. Nous ne pouvons voir le Seigneur Jésus avec nos yeux naturels. Mais nous avons des yeux, maximum deux, des yeux de cœur. Éphésiens 1 nous parle des yeux de cœur, en pluriel. Et simplement avec ces yeux de foi, de cœur, nous pouvons voir le Seigneur Jésus. Et je dis rien de nouveau, mais j'aimerais mettre l'accent sur le fait, est-ce que nous allons vraiment à la réunion avec cette attente de voir le Seigneur Jésus, de remarquer, de ressentir en fait sa présence. Encore une fois, nous allons par habitude, c'est très bien, mais est-ce que nous allons vraiment avec le désir, Seigneur Jésus, nous aimerions te voir, nous aimerions ressentir ta présence, nous aimerions apprendre quelque chose de toi. Et encore une fois, je suis persuadé, la mesure de la bénédiction que nous recevons dépend aussi de notre foi que nous avons personnellement. Et nous voulons vraiment nous encourager d'aller aux réunions avec la prière de la foi. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es là et nous attendons tous de toi. Parce que si nous sommes vraiment conscients que le Seigneur Jésus est là, présent, nous nous laisserons peut-être aussi mieux conduire par le Saint-Esprit. Maintenant, nous n'avons pas un rassemblement sous l'aspect d'assemblée, parce que c'est organisé. Mais demain, si nous venons ici ou dans votre rassemblement local, autour de la personne du Seigneur Jésus, imaginons-nous que le Seigneur est vraiment présent, qu'on pourrait le voir avec nos yeux. Vous ne pensez pas, nos réunions seront complètement différentes. Nos yeux seront fixés seulement sur lui et nous attendrons tout de lui. Nous demanderons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux nous présenter? Quel frère doit indiquer maintenant un cantique? Ça serait logique. On aurait les yeux seulement fixés sur lui et personne dormirait. Non, parce que nous aurons un impact de notre Seigneur Jésus et nous serons tellement touchés par sa personne. Mais nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux naturels. Mais encore une fois, par la foi, nous pouvons le voir. Et c'est ce que nous pouvons apprendre de Ruth. Et si nous sommes tellement fixés sur le Seigneur Jésus, si nous attendons tout de lui, il y a trois réactions dans le verset 13 de cette rencontre. Elle dit d'abord « Mon Seigneur ». Dans la présence avec Boaz, elle apprend mieux à connaître Boaz et elle l'appelle « Mon Seigneur ». Et dans la présence du Seigneur Jésus, nous apprenons davantage à mieux connaître le Seigneur Jésus. Nous croissons dans la connaissance du Seigneur Jésus. Deuxième point, elle dit au verset 13, « Tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. » Dans la présence du Seigneur Jésus, nous sommes consolés, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés parce que le Seigneur Jésus parle à nos cœurs. Des fois, nous, les frères, nous parlons aux têtes des autres. C'est clair, d'abord, nous écoutons avec nos oreilles. Après, il faut comprendre avec l'intelligence. Mais après les derniers 35 centimètres, c'est l'essentiel que ça va dans notre cœur. Et si le Seigneur Jésus parle à nous, il parle toujours à nos cœurs et à nos consciences. Je ne sais pas si vous avez déjà une fois remarqué dans les évangiles, quand les gens ont posé des questions au Seigneur Jésus, il n'a jamais donné une réponse qui va aux têtes. Il a toujours donné une réponse qui était pour le cœur ou pour la conscience. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, quand il parle à nous, c'est toujours pour nos cœurs. Et après, nous avons encore une troisième réaction. À la fin, elle dit, « Je ne suis pas comme une de tes servantes. » Dans la présence du Seigneur, nous apprenons aussi à mieux connaître qui nous sommes. Et je crois que la croissance spirituelle a toujours deux côtés. Un côté, c'est que nous apprenons mieux à connaître le Seigneur, mais de l'autre côté, que nous apprenons aussi à mieux connaître nous-mêmes, que nous sommes vraiment rien. Je sais que dans ma chair habite rien. C'est ça. Je suis rien. Et ça, le but, c'est que lui, il grandisse, le Seigneur Jésus, et que moi, je diminue. Ça, c'est le but. Et nous voyons cela aussi chez Ruth. Après, au verset 14, nous avons le temps du repas. Et Boaz invite Ruth maintenant à manger avec lui. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Le Seigneur Jésus veut nous donner de la nourriture. Et qu'est-ce qu'il donne comme nourriture? Ici, nous avons deux choses. Nous avons premièrement le pain et deuxièmement du grain rôti. Et ça, c'est les deux nourritures que le Seigneur Jésus aimerait aussi nous donner dans la réunion d'édification. Chaque fois que nous lisons la parole. Et le pain nous parle du Seigneur Jésus qui vient du ciel, le Fils de Dieu qui vient du ciel, mais qui est devenu homme et qui a vécu sur la terre. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il explique en Jean 6, « Moi, je suis le pain du ciel. » Et il fait allusion à la manne en Exode 16. Et la manne nous présente justement le Fils de Dieu qui est devenu homme, qui a vécu sur la terre, comme notre parfait modèle. Alors, le pain nous présente le Seigneur Christ qui a vécu sur la terre. Puis, ce pain, elle a trempé dans le vinaigre. Et le vinaigre nous rappelle au Seigneur Jésus, à la croix. Nous lisons dans chaque évangile qu'ils lui ont donné du vinaigre. Et en Jean 19, au verset 30, après, nous lisons, après avoir bu le vinaigre, il a dit, c'est accompli. Alors ce vinaigre nous parle des souffrances et de la mort du Seigneur Jésus. Et après, nous avons les grains rôtis. Et les grains rôtis, comme le nom nous dit, rôtis, c'était des grains qui ont passé par le feu. Alors le feu, le mot rôti nous parle aussi du Seigneur Jésus qui a traversé la mort, les souffrances et la mort. Mais après, il est monté au ciel et maintenant il est glorifié au ciel. Alors les grains nous parlent du Christ glorifié dans le ciel. Pourquoi? En Josué 5, nous n'avons pas le temps de lire tout ça, mais en Josué 5, nous lisons, après qu'ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés à Gilgal, et là, la manne a arrêté. La manne était alors pour le désert. Mais après avoir arrivé au pays de Canaan, il leur a donné du grain rôti. Et le pays de Canaan nous parle justement des lieux célestes. Et toutes les bénédictions que nous avons aujourd'hui sont en relation, en rapport avec le Seigneur Jésus. Nous pouvons nous les jouir seulement en communion avec le Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur Jésus glorifié dans le ciel. Encore, je résume. Le pain nous parle de Christ qui a vécu sur la terre. Le vinaigre nous parle des souffrances et de la mort du Seigneur Jésus. Et les grains rôtis nous parlent de Christ glorifié. Alors, qu'est-ce qu'est la nourriture que le Seigneur donne? Il donne sa personne, vécue sur la terre, mort pour nous et glorifié au ciel. Ça, c'est la nourriture pour toi et pour moi. Et ça, c'était la nourriture pour la jeune convertie, pour Ruth. Mais nous lisons encore, elle s'est assise à droite, à côté des moissonneurs. Donc les moissonneurs, ils ont mangé exactement la même chose. Et ça, c'est la même chose aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est la meilleure nourriture pour nous tous. Si nous sommes jeunes convertis, si nous sommes déjà convertis depuis 40 ans ou 60 ans, c'est égal. Le Seigneur Jésus est la meilleure nourriture. C'est la nourriture que nous avons besoin, que le Seigneur Jésus veut nous donner. Merveilleux, comme nous avons cette relation, cette rencontre entre Boaz et Ruth. Nous voyons, Boaz est intéressé que Ruth reçoit un maximum de bénédictions. Et le Seigneur Jésus veut te bénir. Il veut que nous puissions croître dans la connaissance de la parole et de sa personne. Et après, nous lisons à la fin du verset 14. Elle mangea, elle fut rassasiée et en laissa de reste. Trois choses. Alors, une édification, nous écoutons la parole de Dieu. Ça, c'est manger. Nous écoutons. Ça, c'est la première. Ça commence avec écouter. Si nous dormons, on ne peut pas écouter. Mais si on est attentif, on écoute. Deuxième chose, elle était rassasiée. Le but de la réunion d'édification, c'est comme le nom le dit, c'est l'édification. En 1 Corinthiens 14, nous lisons cinq fois, en tout cas en allemand, cinq fois édification et deux fois édifié. Donc, sept fois, nous avons en 1 Corinthiens 14 l'édification. Le but alors, c'est que l'assemblée, les auditeurs sont édifiés. Et ici nous avons Ruth, elle était rassasiée, elle était édifiée. Et c'est pour ça, c'est important que la parole est annoncée et que nous comprenions quelque chose afin que nous soyons édifiés. Et le troisième point, elle en laissa de reste. Et ça c'est toujours la même chose. Nous ne pouvons jamais comprendre tout de la parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais sonder les richesses insondables du Seigneur Jésus. Ce n'est pas possible. Nous allons toujours laisser de reste. Mais, et tout le monde prend quelque chose d'autre à la maison. Nous sommes différents, nous avons des différents besoins. Mais si le Seigneur Jésus est la nourriture pour nous, nous serons tous édifiés. Puis dans les versets 15 et 16, nous avons la troisième relation. Et ça, c'est la relation entre Boaz et les moissonneurs et Ruth. Entre les moissonneurs et Ruth. Et ce n'est pas une relation, mais nous avons des commandements de Boaz envers ses moissonneurs concernant Ruth. Ça, c'est important. En tout, nous avons trois choses que les moissonneurs ne devaient pas faire et deux choses qu'ils devaient faire. J'aimerais juste les montrer. Au verset 9, ça commence déjà. « N'ai-je pas commandé aux jeunes hommes de ne pas te toucher ?» Alors, les moissonneurs ne devaient pas toucher Ruth. Puis, au verset 15, à la fin, « Ne lui en faites pas de reproches. » Et troisième chose au verset 16, « Vous ne l'en reprendrez pas. » Alors, trois choses qu'ils ne devaient pas faire. Alors, c'est peut-être pas si facile de faire des bonnes applications pour aujourd'hui, mais peut-être nous pouvons en dire trois aspects pour aujourd'hui, pour les frères, concernant les auditeurs, surtout les jeunes croyants. Parfois, quand on est déjà peut-être quelques années en chemin avec le Seigneur Jésus, on méprise peut-être les jeunes croyants, parce qu'on dit... Enfin, ils devraient comprendre ça, ils devraient laisser ces choses mondaines, ils devraient déjà être plus avancés, et ça peut arriver que nous méprisons les jeunes croyants. Ça, nous ne devons pas faire. Il faut peut-être bien se rappeler comme nous on était quand on était jeunes croyants. Un autre problème, c'est aussi mon problème, comme frère, qu'on ne surcharge pas les auditeurs. Je dois arriver à la fin, parce que sinon je vous surcharge. Et si on donne trop d'informations, si on veut trop donner, parfois, c'est le contraire, c'est pas pour l'édification. Alors il faut aussi faire attention qu'on ne veut pas trop donner, et puis que ce n'est pas trop compliqué, afin que nous surchargeons les auditeurs. Et le troisième point, il ne faut pas décourager les auditeurs. Je fais un simple exemple. Si on dit, par exemple, un croyant qui veut vraiment suivre le Seigneur, il doit au minimum lire 30 minutes par jour la parole de Dieu. Sinon, on ne peut pas vraiment être un disciple du Seigneur. Si on dit des choses comme ça, on décourage les jeunes croyants. Il ne faut pas commencer à dire des lois, des choses qui ne sont pas écrites dans la parole. C'est clair, c'est important de lire beaucoup la parole de Dieu, c'est rien contre. Mais si on faisons des lois ou si nous disons des choses qui découragent les jeunes croyants, c'est négatif. Par contre, nous avons deux choses que ces moissonneurs devaient faire pour Ruth spécialement. Au verset 15... Ils commandaient à ces jeunes hommes, disant qu'elles glanent même entre les gerbes. Ça, c'est très beau. Parce que nous n'avons pas encore lu dans la loi, Lévitique 19, il y avait une grâce dans la loi. C'est-à-dire, quand il y avait la moisson, ils devaient laisser les coins, les bords, pour les étrangers. Et cela... Ruth a exactement fait au verset 2. Quand elle a pris l'initiative pour glaner entre les gerbes, elle s'est appuyée sur cette loi que nous trouvons en Lévitique 19. Parce qu'elle pouvait glaner au coin, au bord du champ. Mais ici, Boaz donne un autre commandement. Il dit qu'elle glane aussi entre les gerbes. Ça veut dire qu'elle pouvait entrer dans le champ et aussi glaner entre les gerbes. Alors, Boaz dit maintenant quelque chose qui va par-dessus la loi. Qu'est-ce que c'est? C'est de la grâce. Et ça, c'est important pour nous. Si nous venons par la foi comme Ruth, en s'appuyant sur les promesses de Dieu à la réunion, si nous venons vraiment là avec l'attente, Seigneur Jésus, nous voulons recevoir une pleine bénédiction de toi. Nous attendons tous de toi, nous voulons être édifiés, si nous voulons vraiment avec ce désir, avec cette foi, nous allons faire cette expérience comme Ruth, que le Seigneur Jésus, il dit, tu peux aussi glaner entre les gerbes. Maintenant, tout le champ est ouvert pour toi. Tu peux glaner où tu veux pour recevoir une grande récolte. Et puis, la deuxième chose qu'il dit encore au moissonneur, au verset 16, « Vous tirerez aussi pour elle quelques épis des poignets et vous les laisserez. » Encore plus de bénédictions. Maintenant, il commande au moissonneur de tirer des épis, des gerbes, et de les laisser tomber exprès pour Ruth. Pourquoi cela? Pour qu'elle ait encore plus de bénédictions. Et qu'est-ce que ça nous parle aujourd'hui? Et je suis sûr, ça nous parle du service prophétique. En 1 Corinthiens 14, nous lisons 10 fois de prophétiser et de prophétie. Et ça, c'est le but de chaque réunion d'édification que le frère, il prophétise. Ça veut dire quoi? Prophétiser, ça ne veut pas dire des choses, de dire des choses à l'avance. Ça veut dire de venons de la communion de Dieu et dire des choses qui entrent dans le cœur, dans la conscience et dans la vie des auditeurs. Dire des choses qui sont vraiment des réponses à notre vie, à nos besoins. Et ça, c'est quelque chose que seulement le Seigneur Jésus peut, et le Saint-Esprit, parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos besoins. Le frère, il ne peut pas. C'est exclu. Moi, je ne vous connais pas. Les frères ne vous connaissent pas. Ce n'est pas possible. Mais si nous sommes, chaque moissonneur, chaque serviteur, est en dépendance du Seigneur, qui vit dans la communion avec le Seigneur, il peut prophétiser. Et prophétiser, si nous lisons 1 Corinthiens 14, c'est le sommet, c'est en fait ce que nous devrons désirer. C'est plus haut que la doctrine comme telle, d'expliquer un passage. Ça peut aussi être prophétisé, je ne veux pas dire, mais le maximum que nous pouvons arriver, c'est prophétiser. Pourquoi? Parce que ça édifie l'assemblée. Mais ici, nous voyons qu'elle tire quelques épis. Boaz n'a pas dit, tu prends une gerbe et tu la jettes devant les pieds de Ruth. Non, quelques épis. Alors nous voyons, prophétiser, c'est quelque chose avec beaucoup de tact. Si quelqu'un dit, un frère dit par exemple, fait un exemple ou explique quelque chose de la parole, et tout le monde sait, maintenant il pense à cette sœur ou il pense à ce frère, ça c'est pas prophétiser. Non, prophétiser, c'est quelque chose entre le Seigneur et Ruth, entre le Seigneur et toi. C'est peut-être seulement toi qui remarques, maintenant c'est le Seigneur qui parle vraiment à mon cœur, qui parle à ma conscience. Le frère, il ne le sait pas, les autres, ils ne savent pas, mais toi, tu sais, c'est le Seigneur qui me parle. Ça, c'est prophétiser. Bon, nous arrivons à la fin. À la dernière relation, c'est la relation entre Naomi et Ruth. Et cette relation a déjà commencé dans le premier chapitre, nous avons déjà lu. Mais maintenant, à partir du verset 17 à 20, ou jusqu'à la fin du chapitre, nous avons encore cette relation entre Ruth et Naomi. Et j'aimerais plus aller dans les détails, j'aimerais encore montrer au verset 18 qu'elle est rentrée. 19. Et Naomi a posé une question. Elle pose la question, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Elle voulait savoir où. Et Ruth répond en fait pas à cette question. Elle dit pas où elle a travaillé, elle dit chez qui elle a travaillé. D'abord, pourquoi Naomi a posé cette question? Pour moi, c'est clair. Ruth est revenue du champ avec un épha d'orge. Un épha, c'est un, c'est 10 fois plus qu'un gomère. Un gomère, c'était pour un jour, dans l'Exode 16, avec la manne, il fallait prendre un gomère. Ça suffisait pour une journée. Donc, elle a pris 10 fois plus. Elle a pris une récolte, une moisson pour 10 jours. Un épha, c'est entre 35 et 40 litres. C'est environ, si on calcule ça, c'est environ entre 20 et 25 kilos d'orge qu'elle a ramené après une journée glanée. C'est énormément, il a une quantité énorme. Et c'est pour ça, moi, je suis sûr que Naomi a vu cela et puis elle s'est dit, c'est pas possible qu'elle a seulement glané au bord du champ. Elle a dû rencontrer quelqu'un, elle a dû recevoir une grâce énorme pour qu'elle ait rentré avec une telle quantité d'orge. C'est pour ça qu'elle demande « Où as-tu glané ?» Et Ruth, elle répond « Chez qui ?» Chez Boaz. Le nom est Boaz. Et j'aimerais maintenant revenir au verset 2, au début. Nous avons vu au verset 2 qu'elle avait le désir de glaner, mais elle avait aussi le désir de rencontrer une personne. Et qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu une énorme quantité d'orge, et en même temps, elle a rencontré Boaz. Et chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment, pour nous tous, que nous faisions cette expérience. Que nous venons en nous appuyant sur les promesses de la parole de Dieu par la foi dans la présence du Seigneur Jésus. Et si nous venons ainsi, nous allons faire cette expérience que nous recevons une pleine bénédiction du Seigneur, mais que surtout nous rencontrons notre Seigneur Jésus. Ça c'est le but, que le Seigneur Jésus remplit notre cœur et que nous vivions pour lui, à son honneur et qu'il y ait du fruit pour lui.